Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du livre de Tahiti, lire en Polynésie. Public, lecteurs, auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumuora, le banyan de la Maison de la Culture de Papeete, pendant 4 jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série « Rencontres au pied du banyan ».
Présentation de « Rien n'est perdu » avec Patrice Guirao, ouvrage paru chez les éditions Au vent des îles, échange modéré par Heyrang Sauter.
C'est l'intervention de Patrice Guirao avec « Rien n'est perdu » qui est donc le 5e tome de la collection Al d'Orsay.
Absolument,
c'est ça. Donc voilà, on va redécouvrir ensemble les nouvelles aventures de ce détective hors pair qui élit domicile donc chez nous en Polynésie.
Oui, ça fait quelques années maintenant qu'il sévit, puisque c'est le 5e tome de ses aventures. On le suit dans sa vie affective et puis dans sa vie professionnelle aussi, avec des enquêtes qu'il gère, quoi.
Bien sûr. Moi, je t'avouerai que c'est la première fois que je fais une incursion dans ton univers, dans l'univers d'Al d'Orsay, le 5e tome. Bon, autant être honnête, hein, on ne va pas non plus faire semblant de connaître les autres si on n'en connaît qu'un. Et j'avoue que avoir été agréablement surpris par l'humour, la légèreté, ça m'a rappelé un petit peu des aventures à la Indiana Jones ou à la Spirou, tu vois ce que je veux dire, mais dans un contexte qui nous ressemble, quoi, et qui me parlait un peu plus. Qu'est-ce qui te fait rire, Patrice?
Non, j'aime bien
la comparaison.
Je préfère Spirou, mais bon.
Tu préfères Spirou?
Non, si, je veux bien Spirou.
Tu veux bien Spirou?
Oui, c'est très bien. Oui, oui, mais tu as entièrement raison. En fait, cette série-là, elle est faite pour passer un beau moment. Moi, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, ni à creuser quoi que ce soit dans cette série-là. C'est juste pour les gens qui aiment le plaisir de se détendre. C'est un peu ce qu'ils appellent le cozy mystery. C'est-à-dire, l'intrigue sert un peu de support à l'amusement, à la détente. Voilà, c'est joyeux, c'est festif, c'est pas sanguinolent, c'est pas... C'est un moment de détente.
C'est comique. Bah, on le voit déjà, rien que dès le début, quand il y a son cousin de France là, qui arrive.
Ah, Benoît, notre ami Benoît. Ouais,
qui est quand même un personnage atypique, ses fourchettes dans le crâne, quand même.
Bah, c'est-à-dire que la dernière fois que je suis allé, depuis un petit bout de temps, à l'étranger, que ce soit à Paris ou aux États-Unis, c'est vrai que j'étais un peu étonné de voir ces pinques là avec leur machin, leur ferraille de tous les côtés. Et je trouvais ça plutôt marrant de transposer ce personnage dans notre univers à nous, où en fait, on n'est pas dans la scarification à proprement parler.
Bien sûr. Non, mais c'est surtout la scission violente du personnage de Benoît avec la culture polynésienne. D'ailleurs, on le voit quand il rencontre la mère de Hal.
Oui.
C'est la rencontre est quelque chose, c'est quand même mythique, quoi. Déjà, il arrive dans l'aéroport. Il se coince les fourchettes, enfin ces espèces de tridents, comme il dit, je sais plus.
Ah oui, ce sont des tridents. Nous, on prend ça, Al d'Orsay prend ça pour des fourchettes, surtout Mamie Gianni. Ouais. En fait, ça fait partie de ces trucs, tu sais, les implants que se font les skins. Ils mettent une plaque de ferraille avec des boulons, et puis ils se boulonnent ce que tu veux.
C'est ça.
Voilà, des croix, des clous, des lances, une tour Eiffel, enfin tout ça, quoi. Je trouve ça assez amusant. Et là, c'était des fourchettes.
Qu'il coince dans l'espèce de machine qu'il y a
sèche-main.
Voilà, le sèche-main qu'il y a dans les toilettes de l'aéroport.
Oui.
Ça commence sur les chapeaux de roue comme ça.
Ce sont des choses qui arrivent.
Difficilement, je t'avouerais que quand j'ai lu cette scène-là, j'étais un petit peu en mode on peut aussi.
Eh oui, on peut aussi.
Surtout qu'il faut savoir que pendant tout le début, c'est une espèce de petit mystère où ils sont à la recherche de Benoît, ils sont persuadés qu'il s'est enfui. Et en fait, non, il est juste coincé dans les toilettes de l'aéroport.
Un truc, c'est que quand j'écris ce genre de truc, moi, ça me fait rire d'abord, moi, après ma femme. Et donc après, à partir du moment où ça me fait rire, ça me va.
C'est comme ça que tu le valides, quoi. À partir du moment que toi, t'as rigolé, tu laisses
J'avais proposé, moi, à l'éditeur de faire un petit truc en bas en disant...
Rapproche ton micro, Patrice, pardon.
Oui, je veux dire, en écrivant, si vous n'avez pas souri au moins une fois en lisant ce bouquin, venez, je vous le rembourse.
Ah bah c'est bon, j'ai souri plusieurs fois, j'ai même rigolé des fois, donc je pense que je peux ne pas le ramener.
Voilà, tu ne te feras pas rembourser alors.
Ouais, Ah, ça, c'est triste. Je peux quand même demander un peu d'argent, non?
Oui, mais tu peux toujours.
Quelles sont tes inspirations pour écrire ce type d'œuvre? Parce que je sais que j'ai lu aussi une autre œuvre de toi, c'est Main de glace, qui était sortie précédemment, où on n'est pas du tout dans la même ambiance.
Non.
On est beaucoup plus dans le policier pur et dur, avec tout ce que ça a comme code. Ouais. Mais du coup, pour des œuvres comme Al d'Orsay, quelles sont tes inspirations?
Disons que j'ai pas envie d'être enfermé dans un type d'écriture et dans une écriture à proprement parler. Donc c'est pour ça que j'ai fait la série d'Al d'Orsay, qui est cette série où j'essaie de mettre de l'humour, de la légèreté, du plaisir. Il y a une autre série qui est la série des aventures de Lilith, qui se passe aussi en Polynésie, mais ce sont des romans beaucoup plus sombres, beaucoup plus sociétaux, entre guillemets, toujours dans le domaine du noir ou du polar. Ensuite, il y a d'autres romans que j'ai écrits qui sont des polars purs et qui se passent aux États-Unis, les deux autres.
Et Main de glace, d'ailleurs.
Main de glace, À la lueur du sang également. Et puis, je vais entamer un autre type d'écriture qui est celle du roman pur, un roman absolument illisible. Il n'y a que moi qui arrive à le lire. Donc, je suis.
C'est un
et demi. Voilà. Et j'aime cette idée que l'écriture ne soit pas un carcan dans lequel, un style dans lequel on doit rester enfermé. J'aime bien l'idée que l'écriture soit une espèce de grande balade à travers l'univers des mots et qu'on peut en jouer comme dans un instrument, inventer de nouvelles musiques. Et c'est un peu difficile dans cet univers de l'édition. Ou même dans l'univers tout court de la création, on est très vite enfermé dans ce qu'on a fait.
Bah, des fois, ce n'est même pas vous qui vous enfermez, c'est les critiques ou les gens qui vous lisent qui vous enferment dans un genre.
Par exemple, moi, je viens de la chanson. J'ai fait une carrière de ce qu'on appelle les paroliers. Donc, pendant 30 ans, j'ai fait des textes de chansons.
Et tu as travaillé sur des toutes petites comédies musicales, pas du tout connues d'ailleurs.
Ouais, voilà. J'ai fait des chansons. Enfin, les gens me connaissent pas, mais connaissent les textes de mes chansons, clairement.
C'est ça. T'as travaillé sur quoi, à titre d'exemple, pour des choses que les gens qui ne te connaissent pas.
J'ai travaillé un peu pour. Enfin, ça va être très prétentieux ce que je vais dire, mais c'est une réalité. À peu près tous les chanteurs français, depuis Johnny Hallyday, en passant par Obispo, Calogero, Sacha Distel, Jane Birkin.
Alors déjà, d'une part, ça couvre un large panel de la variété française, mais surtout, ça te rajeunit pas aussi, Patrice.
Non, mais je cherche pas à être rajeuni. J'ai arrêté d'écrire des chansons il y a quelques années parce que j'estime qu'il arrive un moment dans la vie où on a passé l'âge des choses et qu'il faut passer la main. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le champ lexical de ce qui se fait actuellement. Je serais incapable d'écrire du rap, voire même du slam. Il y a à côté de ça, j'avais fait aussi, puisqu'il y a de la comédie musicale, des comédies musicales qui ont eu leur succès, les Dix Commandements, Le Roi Soleil, Mozart, Cléopâtre, Les Trois Mousquetaires, Robin des Bois.
Ce que je disais, vraiment des petites œuvres que personne connaît.
Et Bernadette Soubirous, voilà, qui se joue en permanence. Donc de cet univers-là de l'écriture, j'en ai vécu toute ma vie, c'est très difficile de s'en extirper pour être accepté dans un autre univers d'écriture. D'accord. On n'est pas crédible. Un type qui fait des chansons, s'il va chercher le roman, on dit attends, c'est pas ta place, quoi. Tu as déjà donné ailleurs. Donc j'ai essayé moi de rentrer dans le domaine de l'édition à travers la petite porte qui est le polar. Dans le monde du polar, on estime qu'il n'y a pas d'écrivain, qu'il n'y a pas d'auteur, il y a des vendeurs. Il y a des gens qui marchent bien, des gens qui ne marchent pas, et ils sont tenus d'écrire des choses dans un cadre bien spécifique, avec des codes bien. C'est des choses très normatées.
C'est quelque chose que tu penses ou c'est quelque chose qu'on t'a dit?
C'est quelque chose qui est, moi je ne pense, pense pas, j'évite de penser. Donc je me suis dit.
Ça c'est fait.
C'est fait. C'est peut-être là où on me tolérera le plus facilement. Donc j'ai commencé par du polar. Et puis, petit à petit, au bout de je ne sais pas combien, 10 ou 12 polars, j'ai envie de m'éloigner un petit peu de ça. Maintenant qu'en fait, on m'a accordé le fait que je puisse écrire, parce que c'est déjà ça, des romans. Oui, et peut-être me lancer dans le roman, entre guillemets, littéraire, avec peut-être une possibilité d'exister, quoi.
D'accord. Est-ce que tu aspires, là justement tu disais le polar, tu es connu maintenant pour Al d'Orsay, est-ce que tu as un genre ou un univers que tu aimerais exploiter dans l'avenir, genre de la science-fiction, je sais pas, peut-être?
la science-fiction me plaît bien parce que j'aime, parce que j'ai envie d'exploiter. C'est, si tu veux, actuellement dans l'édition ou dans la littérature, on a deux choses. On a le cadre ou l'hors cadre. C'est-à-dire, soit tu rentres dans le cadre des choses, dans le genre entre en particulier, soit tu sors du genre, tu es hors cadre. C'est le nouveau roman, tout ce que tu veux. Mais en même temps, tu prends une identité. C'est-à-dire que tu es obligé de te tenir à des règles, même le hors cadre a des règles. Et moi, ce qui me plaît davantage, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire du hors-cadre dans le cadre.
D'accord.
C'est-à-dire un peu ce que faisait peut-être aussi Marquez dans ses romans, c'est-à-dire on abolit le temps, on abolit des règles de narration. Ça m'amuse.
D'accord. J'ai vu que les thématiques...
C'est un peu chiant.
Non, c'est même passionnant, moi, je trouve, pour l'instant. Pourvu que ça dure, d'ailleurs. Et ensuite, il y a deux thématiques qui sont évoquées dans ton dernier livre, enfin, en tout cas, les deux enquêtes que mène en parallèle Al Dorsey. Donc, une avec donc l'ICE, qui reste quand même quelque chose d'assez actuel. Mmh. Et je crois les organismes pyramidaux, c'est ça?
Ah, il y a les pyramides de Ponzi.
C'est ça, il y a les deux. Donc. Et que, comment ça se fait que tu aies choisi ces deux...
Les combats de coq, c'est vrai.
Comment ça se fait que tu aies choisi ces thématiques pour cette nouvelle aventure de Al Dorsey?
Après, je pense qu'il y a souvent des choix que l'on fait de manière un peu inconsciente, sans avoir vraiment envie d'eux, et a posteriori, peut-être se trouver les bonnes raisons qui font qu'on a fait ces choix-là. Si tu me parles de l'ICE, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est une réalité du pays, et le traiter avec un tout petit peu d'humour, c'est peut-être aussi permettre d'ouvrir un peu plus grand les yeux sur la réalité, et parce que je sortais de l'écriture d'un autre roman qui est Rivage Obscur, qui traite lui effectivement de la problématique de l'ICE dans le pays, mais d'une manière beaucoup plus rude, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique. Donc d'accord, ces deux raisons ont fait que j'ai pris cette thématique, voilà. Après la pyramide de Ponzi, ça je trouve que c'est parce qu'en fait on est dans un pays où il y a énormément de... Je ne vais pas dire de naïveté, mais de crédulité par rapport à la réalité. J'ai l'impression que de temps en temps, ici, on a des gens qui nous viennent de l'extérieur avec dans leur besace une espèce d'arnaque, de série d'arnaques bien ficelées et qu'ils viennent les imposer, nous les porter à domicile. Et ça m'emmerde un petit peu.
Tu as voulu tenir quand même si c'était dans la légèreté, en parler un petit peu, quoi.
Oui, voilà. Donc moi, je vois pas. Je donne un exemple tout bête, quoi. On sait qu'ici, le démarchage à domicile est interdit. Moi, j'ai un mec qui est venu à la maison avec sa camionnette me vendre des tapis parce qu'il allait partir le lendemain et que c'était une affaire exceptionnelle, qu'il fallait absolument que j'achète un tapis persan à 700 000 ou 800 000 francs le tapis. Je dis, mec, mais reste chez toi, quoi. C'est bon. Voilà. Donc ça m'agace un peu, et ce qui fait qu'en fait ça a donné cette enquête, hein, mais sous le ton de l'humour, pas énervé comme je suis aujourd'hui. Hein.
Bien sûr, je suis rarement
énervé.
Donc voilà, en gros, si vous voulez être dans la prochaine aventure d'Al Dorsey, il faut énerver Patrice. C'est ce que je comprends, c'est ça?
Non, pas tout à fait. Fais-moi rire et tu viendras.
Et donc, la dernière thématique que tu as citée, en me corrigeant, bien sûr, c'était le combat de coq. Et le combat de coq, pourquoi, du coup?
Les combats de coq et les combats de chiens. Parce que je suis d'un côté émerveillé par ça et en même temps écœuré. C'est-à-dire qu'effectivement, la bien-pensance veut que c'est odieux, c'est laid, c'est pas humain. Mais quand je vois des petits gamins avec leurs coqs en train de les entraîner, ça me touche beaucoup, quoi. Je trouve ça joli au niveau de l'image. Ces petits coqs bien maigres, bien fermes, et les petits gamins qui sont là en train de les pousser à se battre. Il y a un côté poétique dans la chose à laquelle je ne suis pas insensible. Donc voilà, comme je suis partagé dans ce domaine pour faire un choix, j'en ai parlé pour essayer de trouver une réponse que je n'ai pas trouvée. Je suis toujours aussi fasciné qu'ennuyé par ces histoires-là, quoi.
D'accord. Est-ce que... Il n'y a pas de souci.
Ok.
Donc voilà, c'est pour ça, si vous ne saviez pas pourquoi, voilà pourquoi il y a toutes ces thématiques qui sont évoquées dans le dernier livre de Patrice. Est-ce que tu as déjà des aventures en tête pour les prochains livres d'Al Dorsey, si tu as des projets d'autres livres d'Al Dorsey?
Je suis en train d'écrire le sixième en ce moment.
D'accord, déjà.
Voilà, oui. Et je me suis aperçu que pratiquement tout le temps dans les bouquins de la série d'Al Dorsey, c'est toujours un élément exogène qui vient foutre un peu le merdier dans la vie d'Al Dorsey et dans l'histoire. C'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, comme si j'avais le sentiment que on serait mieux si les frontières étaient fermées. Je suis pas loin de le penser vraiment, quoi.
Je doutais que ça allait tourner comme ça.
On peut en parler si tu veux, mais c'est peut-être pas. Moi, au contraire, je veux bien en parler. Je suis radical là-dessus. Donc à chaque fois, les emmerdements viennent de dehors, depuis le début. Depuis le début, ça vient de l'extérieur. Donc en fait, l'élément exogène est toujours des emmerdes à venir. Et dans le prochain, pour casser avec cette idée que l'exogène est forcément de l'Occident, forcément d'un continent extérieur, en fait là, c'est l'élément qui va venir de l'extérieur. C'est un groupe de quatre individus qui viennent d'une tribu de la vallée de l'Olmo.
D'accord.
En Éthiopie, et qui se retrouvent à Tahiti. Ils arrivent avec un canot de sauvetage. Donc on les ils arrivent sur la plage de Mamidjani, bien entendu, et ça démarre sur cette arrivée de gens qui viennent de l'extérieur. Ils viennent avec des animaux aussi. Il y a quatre singes dans le canot de sauvetage avec eux.
Ouais.
Et on a cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait des éléments qui nous viennent de l'extérieur de manière générale, qu'ils soient humains ou qu'ils ne soient pas humains, ou la biodiversité. Et tout ça, on rigole avec. Hein. Moi, je ne fais pas un combat particulier, mais c'est des thèmes en même temps. Et effectivement, ça pose aussi ce problème de la capacité de réception d'un petit bout de terre. Tout le monde nous casse les bonbons en ce moment avec le réchauffement climatique, avec les montées des eaux, avec les problèmes de surpopulation, ce que tu voudras. Et en fait, on est sur une île et on applique un peu les modes de vie de cette île sur les modes de vie et les comportements continentaux. C'est impossible. Il faut arriver sans agressivité aucune, à accepter de se dire qu'en fait, ce territoire n'est pas extensible, qu'il a une capacité d'encaisser un certain nombre d'humains, et pas plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a 500 000 personnes qui viennent vivre sur cette île, l'île est morte. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas de solution, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut accepter de dire il va falloir un peu faire des choix, être odieux, mais bon.
tout simplement réaliste, à un moment donné,
Tu es réaliste, mais le fait d'être réaliste va te pousser à avoir des attitudes, des comportements, des décisions, des choix qui sont pas forcément ni moraux, ni de bien-pensants, ni quoi que ce soit, mais qui sont indispensables. On demande à tous de faire de la récession, de la régression, de tout ce que tu voudras, on revient en arrière. Si on veut éviter ça, peut-être qu'il faut agir peut-être un peu différemment, en tout cas dans des pays comme celui-là. On le voit, mais c'est fantastique, quoi. Quand on voit tous ces immeubles qui poussent partout, qui sont laids à en crever, c'est à chier, et qu'on se dit, maintenant on va vivre.
Non, je suis d'accord avec toi, je vais pas.
On va vivre en vertical, mais d'où on a vécu en vertical dans aucune île au monde. On vit pas en vertical dans les îles. D'où vient cette idée ? Elle est pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Donc on arrête. Si on peut plus loger les gens, je sais pas, on ouvre un peu les vallées, on trouve d'autres solutions. Je m'emporte là.
Oui, j'ai vu. Comme vous voyez, derrière chaque Al d'Orsay se cache un Patrice Guirao énervé. Avec des voilà. Donc les thématiques, on vient de le voir, ne sont pas anodines. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Non, mais sincèrement.
Ouais, la colère.
j'ai envie de te dire, c'est une bonne manière de transformer de la colère, moi. C'est quand même mieux que de taper sur les gens dans la rue, quand même.
C'est gentil. Ah, quoique. Je suis armé. Non, en même temps, il n'y a pas de révolution douce. Hein. Si on veut qu'il y ait une révolution, elle se fait toujours dans la violence. Il n'y a pas le choix.
Oui, bien sûr.
L'indépendance, ça ne se demande pas, ça se prend. Où tu as vu que les peuples deviennent indépendants juste en demandant, en disant, tiens, est-ce que vous voulez bien que je sois indépendant ? C'est pas est-ce que vous voulez bien que je sois indépendant ? Je suis indépendant et je t'emmerde. Voilà, ça s'arrête à ça. Oula, Patrice, arrête.
Mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas moi qui vais t'arrêter, hein.
Je dis des choses que les gens peut-être n'osent pas trop dire parce que c'est pas un discours qu'on est censé tenir, mais c'est une réalité qui à un moment donné, quand on choisit quelque chose, faut aller jusqu'au bout de ce que ça engendre.
Et en vrai, toutes ces réflexions-là, même si on parlait tout à l'heure de l'humour et de la légèreté des œuvres d'Al d'Orsay, les problématiques sont, bien que traitées avec légèreté, sont là. Donc, de toute façon, il y a les réflexions.
Il y a l'amitié,
il y a des jolies choses aussi, j'allais y arriver justement. Il y a quand même la gentillesse d'Al d'Orsay, sa relation avec sa fille adoptive et sa femme du coup, qui sont des personnages qu'on a vus dans les précédentes aventures d'Al d'Orsay, ce que j'ai compris avec les... D'ailleurs, pour quelqu'un qui est extérieur à l'univers d'Al d'Orsay, il faut savoir que ce qui est expliqué dans le livre suffit à rentrer dans le récit. C'est-à-dire que les deux personnages de Lee Sao et du coup j'ai oublié le nom de la petite fille.
Koala.
Voilà. Donc c'était assez facile de comprendre qu'elles étaient présentes dans les précédentes enquêtes de Aldor Sey et qu'elles avaient un rôle prépondérant de Dante. Donc voilà. Et est-ce que du coup, petite question pour l'avenir d'Aldor Sey, est-ce qu'un jour il ira dans un autre pays? Est-ce qu'il va voyager Aldor Sey dans ton œuvre?
Et ben là, il va aller en Australie déjà dans le prochain. Okay. Dans les précédents, il a fait un petit tour quand même à l'île de Pâques. On reste quand même dans le coin.
Mais on reste voilà.
On reste dans le coin, mais il va rester un peu dans le Pacifique. J'ai envie de lui faire un petit tour en Australie, voilà, avec dans le cœur de l'Australie.
D'accord.
Avec ses copains qui arrivent d'Éthiopie.
D'accord, ok. On n'en saura pas plus, on ne va pas se spoiler non plus prochaine aventure.
C'est le prochain, c'est vrai, il n'est pas encore fini.
Voilà, c'est ça. Est-ce que, je vais laisser un petit peu de temps justement pour le public, est-ce que vous avez des questions à poser à Patrice?
Ça va bien, merci.
Est-ce que c'est de la fiction, tu veux dire, pas de la science-fiction? Est-ce que c'est de la fiction ou ça s'appuie sur de la réalité quotidienne?
Il y a un peu des deux. Il y a forcément de la fiction parce que bien que souvent la réalité dépasse largement la fiction, quoi. Je ne sais pas qui c'est qui me disait que mes bouquins, les autres, sont vachement sombres et durs et tout. Mais là, je regardais aux infos hier, il y a un mec qui a violé une grand-mère de 96 ans. Est-ce que la réalité n'est pas pire que ce que je peux écrire dans mes bouquins? Donc, je ne sais pas ce que tu me demandais déjà, je ne sais plus. Si c'est de la fiction ou pas. Oui. Il y a un fond de vrai. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités. Par exemple, au niveau des décors, des environnements. Moi, j'ai des décors de ma jeunesse et j'ai des décors d'aujourd'hui. Donc, je mélange aussi les temps. Je mélange des choses qui n'existent pas. On parlait tout à l'heure avec des choses qui sont devenues invisibles parce qu'elles ont disparu. Pour moi, elles sont toujours vivantes dans les romans d'Aldor Sey. Il y a des restaurants qui ont disparu, mais qui sont toujours là. Il y a une approche de la musique qui a disparu, mais qui est toujours là. Il y a, voilà, je cite beaucoup d'artistes locaux, mais qui sont vrais, qui sont vivants. Quelques hommes politiques dont je détourne le nom pour pas trop qu'ils soient pas trop gênés. Mais voilà, mais sans ça, il y a les deux. Il y a beaucoup du vrai, le pays, les décors, la pluie, tout ça c'est vrai. Les personnages aussi, beaucoup sont vrais. Enfin, vrais dans leur nature. C'est des gens riches de leur vécu, riches de leur gentillesse, riches de leur philosophie de la vie à chaque fois, et riches de leurs défauts qui nous feront rire, quoi. Donc, il y a les deux.
Merci pour cette réponse, Patrice. On vient de me faire signe que ça est fini. Est-ce que j'ai encore une dernière question, peut-être? Vas-y. Attends, j'arrive avec le micro.
Est-ce que tu t'inspires de personnes de ton entourage pour créer les personnages ou alors c'est juste un peu une recette, tu mets un peu de gentillesse, un peu de défaut et du coup tu crées ton personnage?
Il y a un peu des deux. Hein. D'abord, tu as des gens avec lesquels tu vis, que tu côtoies, qui te marquent soit par leur aspect physique, soit par leur tic de langage, soit par leur histoire elle-même. Et puis, à côté de ça, tu vas le façonner aussi à ta guise, surtout selon les besoins de ton histoire. Si j'ai besoin d'un garagiste, je vais créer un personnage de garagiste. Il aura un vécu de garagiste. Il sera peut-être petit-fils et fils et arrière-petit-fils de garagiste, ou pas du tout. Il sera issu d'un milieu très intellectuel et balancé dans le monde de la mécanique. Du coup, mon personnage va être un peu différent selon déjà ses origines. Donc, un personnage, il faut qu'il ait déjà un vécu, une vie. Il faut que tu lui crées sa vie, que tu lui crées ce qui fait ce qu'il est à ce moment-là. Et forcément, dès que tu as fait ça, tu verras que sa façon de parler, sa façon de répondre, tu n'as même plus besoin d'y réfléchir. Elle se fait naturellement. Tu te mets dans la peau de ce mec-là et forcément, tu réponds ce que tu vas écrire, quoi. Sinon, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais.
Tu leur donnes vie, quoi, pour en parler. Au bout d'un moment, tu finis par juste être un instrument de ce qu'ils vont dire et de ce qu'ils vont être.
Voilà. Si le passé de chacun fait le présent de chacun. Donc, si ton personnage, il est creux dès le départ, s'il est vide, si tu prends un personnage juste pour qu'il soit là, ça va être fade. Par contre, même les personnages des seconds rôles, même de troisième, dans le décor tout à fait au fond, pour moi, je connais leur histoire, je connais leur vie. Et je sais pourquoi le mec, il va flancher comme ça de la tête tout à fait au fond, ce que veut dire ce signe-là. Et donc forcément, quand je vais le transcrire, il y aura dans le paragraphe ou les quatre lignes qui vont traiter du sujet, j'essaie de condenser tout son vécu aussi pour qu'on le ressente mieux, quoi. L'émotion, elle vient de là. Sans ça, c'est neutre, c'est fade.
Merci en tout cas. Voilà. Merci Patrice. Merci pour ton intervention. Vous. J'aimerais qu'on applaudisse Patrice Guirao.
C'était la présentation de Rien n'est perdu avec Patrice Guirao, ouvrage paru chez les éditions Au Vent des Îles, échange modéré par Heirani Sauter.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.